9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, bonjour et bienvenue, très bel été à tous. Mon invité ce matin, c'est Walid Mekedem. Bonjour Walid.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va doc. Tout le monde vous connaît sous les réseaux sociaux sous le nom d'Avicenne. Alors Avicenne, c'est pas exactement comme le médecin, hein?
J'ai changé un petit peu l'orthographe pour l'adapter au réseau. Donc A-V-I-S-C-E-N-E pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube.
Vous êtes un des docteurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous avez raconté vos études de médecine sur votre chaîne que vous avez ensuite transformée aujourd'hui en chaîne de vulgarisation médicale. Vous êtes médecin généraliste installé aujourd'hui en région parisienne, plus précisément à Paris, où vous consultez dans un centre de santé.
Exactement, donc médecin parisien depuis début d'année, après avoir été pendant un petit moment médecin remplaçant dans la région lilloise.
Bon, vous regrettez d'avoir choisi la médecine généraliste ?
Non, du tout. Franchement, je pense qu'au vu de ma personnalité, de ce que j'aime faire en médecine, c'est ce qui me convient le plus.
Et pourquoi ne pas vous être installé en libéral directement ?
Bonne question. Alors, après avoir testé sur une période d'à peu près un an et demi la médecine libérale, j'ai conclu que à cette époque, en tout cas, de ma vie, c'était pas ce qui me convenait le plus. Donc là, je trouve un certain confort en étant médecin dans un centre, en tant que médecin salarié. Après, ce n'est peut-être pas définitif, mais c'est sûr qu'actuellement, après avoir testé, c'est ce qui me donne le plus de confort pour faire aussi certaines choses à côté.
Mi-juillet, ça commence à devenir encore plus difficile de trouver un médecin généraliste de disponible. Et pourtant, il y en a qui engorgent les rendez-vous.
Alors c'est sûr que, surtout en région parisienne, mais aussi ailleurs, c'est très difficile d'ailleurs en temps général de trouver des rendez-vous médicaux. D'autant plus sur la période estivale quand certains médecins partent en vacances et ont du mal aussi à trouver des remplaçants. Donc je reçois beaucoup de personnes qui sont pas des habitués du cabinet, mais qui viennent par défaut dans le sens où leur médecin n'est pas là. Et donc c'est vrai que pour ces personnes et pour les personnes en général, c'est difficile d'avoir rendez-vous. Mais si les personnes savaient, c'est que dans les backstage, nous de notre côté, parfois, sur une journée de consultation, on peut avoir 10 rendez-vous qui n'ont pas été honorés sans que les personnes préviennent. Et donc, des rendez-vous qu'on aurait pu potentiellement donner aux personnes qui en ont besoin.
Des créneaux valides, en fait.
Des créneaux valides. Alors, vous commencez la journée, le tableau est plein. Les gens appellent et disent « Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui ?» Non, désolé, il n'y a pas de place, franchement, je ne peux pas vous prendre. Vous retrouvez en fin de journée, finalement, il y avait plus d'une heure et demie, voire deux heures, des fois, de consultation de libre. Et c'est sûr que si les gens prévenaient, en ne venant pas à leur rendez-vous, bah, on pourrait s'arranger avec les secrétaires, etc., pour les refiler. Mais quand vous constatez ça à la dernière minute, c'est pas possible de refiler le rendez-vous.
Qu'est-ce que vous donnez comme explication, justement, à ces gens qui se permettent de pas honorer des rendez-vous médicaux?
Alors, c'est un peu, société, je dirais, là, de consommation par rapport à ça, même dans le domaine de la santé, parce qu'aujourd'hui, c'est facile, avec Internet, de prendre rendez-vous. Et c'est vrai que les gens pensent que c'est comme s'ils achetaient une canette au distributeur, je prends rendez-vous, au pire, si je la bois pas, c'est pas grave, ça coûte 1 euro. Mais en fait, non, derrière, il y a une application, que ce soit pour le professionnel de santé, mais aussi pour les patients qui en ont besoin. Si vous prenez un rendez-vous en ligne, même si c'est facile, à la fois de le prendre, et c'est aussi facile de pas l'annuler ou de l'annuler. En tout cas, il faut l'annuler. Comme ça, au moins, il peut être redistribué. Et il y a énormément de personnes qui en ont besoin. Et aujourd'hui, en France, on est à plus de 20 millions de rendez-vous médicaux en général, que ce soit rendez-vous en consultation, imagerie. Non, on aurait, vous imaginez, 20 millions. Plus de 20 millions.
Mais c'est vrai, chez les spécialistes où c'est si difficile d'avoir des rendez-vous, je pense aux dermatos, aux ophtalmos, les gens ont les mêmes comportements?
Exactement. Donc si vous saviez là, franchement, ça vous ulcérerait parce que par exemple, ce qui est difficile à voir, c'est des examens d'imagerie, des IRM. Et surtout, une plage d'IRM, c'est pas 15 minutes. Parfois, c'est une demi-heure. Et moi, je connais des gens qui travaillent dans des centres de radiologie et des fois, il y a plusieurs lapins dans la journée pour des examens ultra difficiles à avoir. Donc vous imaginez, vous êtes là, vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'un IRM, vous êtes stressé, vous cherchez sur Internet, il n'y a pas de place. Et vous savez que chaque jour, dans les cabinets les plus proches de chez vous, il y a de la place.
Ça, c'est aussi un truc à savoir, c'est que finalement, tentez votre chance. Est-ce qu'il y a des blacklists après? Est-ce que les personnes qui posent des lapins comme ça sont blacklistées dans les cabinets ou pas du tout? Il n'y a pas d'incidence?
Alors ça, c'est à la sauce de chacun. Chacun prend un petit peu ses décisions vis-à-vis des comportements comme ceux qu'on vient de décrire. Moi, personnellement, c'est simple. Si une personne qui n'est jamais venue au cabinet prend rendez-vous et ne vient pas sans justement prévenir, j'ai jamais vu cette personne, elle a pris rendez-vous, elle l'a pas prévenu de pas venir, bon bah c'est tout, c'est mort, je blacklist, impossible de prendre rendez-vous en ligne. Après, pour les personnes qui sont déjà venues, Alors c'est au bout d'un certain nombre de rendez-vous quoi. Si vraiment on voit qu'il y a de l'abus, au bout d'un moment, faut pas abuser, faut aussi prendre ses responsabilités ou appeler, expliquer un petit peu pourquoi. Mais si
il peut y avoir des bonnes raisons, on dit on dit pas que tout le monde, tous ceux qui n'honorent pas les rendez-vous n'ont pas de bonnes raisons. Mais bon,
si on dit... je reste humain, on peut avoir. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que c'est possible de pas pouvoir venir, mais voilà, il faut prévenir, même si c'est pas prévenu à l'avance. Des fois, on peut appeler juste après pour dire désolé, en fait, il s'est passé ça, j'ai pas pu venir. Mais vraiment, le comportement où, d'une manière répétitive, on prend rendez-vous, on vient pas et on fait comme si de rien n'était, bah, à un moment, voilà, on est adulte, on prend ses responsabilités.
Est-ce que ça a encore un sens que de prendre des rendez-vous? Moi, je me souviens de l'époque où, quand on était malade, on allait dans la salle d'attente du médecin. First in, first out. Le premier arrivé passait le premier. Et finalement, le médecin avait fini sa journée quand la salle d'attente était vide. Donc, est-ce que c'est pas simplement ce système de rendez-vous qu'il faut revoir?
C'est une bonne question. En fait, il existe encore des cabinets sans rendez-vous. Moi, j'ai pu justement exercer sur ma période en tant que médecin remplaçant. Et c'est un exercice quand même compliqué. Parce que c'est du tout double, et en général c'est du double. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un cabinet sans rendez-vous, d'ailleurs il y en a un, je passe à chaque fois devant le matin en bus quand je vais au travail, et même pas 8h du matin qu'il y a des gens dehors quoi qui attendent. Et en fait, c'est déjà pour le médecin, c'est une source de stress incroyable de rentrer dans le cabinet, de se dire il y a tout ce monde à l'entrée, donc ça génère un stress, le fait de devoir aller vite par voilà. Donc franchement, ce qui est bien avec les rendez-vous, certes ça peut avoir certaines contraintes vis-à-vis des gens, la difficulté à prendre des rendez-vous, mais on vient de le dire, il y a aussi beaucoup d'abus sur...
C'est pour ça que je vous pose la question, je dis que finalement, est-ce que c'est pas la limite
En fait, ce qu'il faut...
Aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous sur Internet, il n'y a pas d'engagement.
Il n'y a pas d'engagement.
Exactement. Déjà, quand vous devez téléphoner, avoir une secrétaire, donner votre nom, machin, bon, quand même... ou alors, il faudrait débiter la consultation au moment où vous prenez rendez-vous.
Alors ça... Il y a certaines professions médicales qui le font, mais pour les médecins, c'est interdit en France. Donc peut-être, je sais pas, qu'un jour ça viendra. Moi, c'est pas forcément ce que je propose, mais voilà, ce serait bien déjà qu'on avance dans le sens où les gens, tout simplement, prennent leurs responsabilités et disent voilà, je peux pas venir, je vous préviens, ou alors j'ai pas pu vous prévenir, je m'en excuse, et n'ont pas un comportement répétitif comme ça. Et pour les cabinets sans rendez-vous, c'est compliqué même pour les gens. Je vous avoue qu'il y a plein de patients qui viennent me voir en me disant mon médecin, franchement, il est bien. Mais à chaque fois que j'y vais, j'attends 3 heures. Et c'est plus possible. Surtout quand c'est des personnes âgées, des personnes un peu fragiles et tout, ou même des mères avec des enfants. Vous imaginez une mère avec son enfant en salle d'attente à attendre 2 heures parce que du coup, c'est de la consulte sans rendez-vous. Il y a des personnes, voilà, c'est compliqué. Donc c'est compliqué à la fois pour le médecin où c'est un stress, c'est une charge de travail hyper importante. C'est à la fois aussi compliqué pour les patients. Voilà, de se rendre disponible, de pouvoir se rendre et attendre 2-3 heures dans la salle d'attente.
Quelles sont les consignes pour les patients covidés en salle d'attente aujourd'hui? Est-ce que vous continuez à avoir des personnes qui ont le Covid et qui viennent consulter?
Alors, à plusieurs cas de figure. Déjà, il y a la personne qui a le Covid et qui le sait pas et qui vient parce que les grippés, elle vient, elle consulte, vous la
et
voyez.
Et ça c'est beaucoup?
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, faut pas se mentir, le Covid existe encore. Il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées. Il suffit d'aller sur l'application, là, je sais plus comment elle s'appelle, Tous Anti-Covid, on a les chiffres quotidiens. Donc effectivement, il y a du monde qui attrape la maladie quotidiennement et la plupart de ces personnes consultent. Voilà, elles sont malades, elles savent pas qu'elles ont le Covid, elles vont voir le médecin. Et ben du coup, elles sont en salle d'attente, d'où l'importance de garder quand même les masques dans les salles d'attente, parce que si ça se trouve, voilà, la personne qui est à côté de vous, etc., Covid, cependant, les gens continuent de consulter. Et c'est pas non plus de leur faute, elles savent pas forcément qu'elles ont le Covid.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même, il y a encore pas mal de gens qui vont consulter sans savoir qu'ils pourraient potentiellement avoir le Covid et qui vont pas se faire tester, en fait.
Bien sûr. Exactement. Donc, c'est pas un réflexe, faut pas le penser, même si chez vous, qui écoutez, peut-être, vous vous disiez, ça paraît logique de se faire tester quand on est grippé. Aujourd'hui, surtout en période estivale, il y a beaucoup de personnes qui viennent très malades en me disant non mais pas de problème, c'est parce que il y avait la climatisation, je suis tombé malade. Après, elles font un test, finalement c'est le Covid. Donc voilà, s'il faut passer un message simple, sans être compliqué, vous êtes malade, vous avez la grippe, vous avez de la fièvre, faites un test. Voilà, c'est
commencez par faire un test.
Voilà, commencez par faire un test.
Pour vérifier si vous êtes.
C'est assez basique comme consigne, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué.
Covid plus ou pas. On va parler aujourd'hui des bobos de l'été. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on tombe systématiquement malade quand on est en vacances? Est-ce qu'il y a une règle pour ça?
Alors, systématiquement, je ne sais pas.
C'est-à-dire que tout va bien et on arrive en vacances, bim, on tombe malade.
Bah, ça dépend.
Est-ce qu'il y a une explication à ça?
Bah, ça dépend de quelle manière on tombe malade. Il va y avoir, par exemple, ceux qui vont avoir la diarrhée, ceux qui vont attraper, justement, comme on disait, une petite grippe, ceux qui vont attraper une insolation, ceux qui vont tomber malades aussi, important, à cause des moustiques. Donc, moi, j'ai beaucoup ma patientèle, car elle est d'origine africaine. Là, c'est la période de l'été. Ils vont tous en vacances, justement, dans leur pays d'origine. C'est important, si on peut en parler aujourd'hui, de faire la prévention palustre contre le paludisme. Donc, faut venir voir le médecin avant de partir, si vous partez au Mali, au Sénégal, au Congo, Cameroun, etc., pour donner un traitement contre le paludisme qu'on prend en prévention.
D'accord. On le prend combien de temps avant?
Alors, bonne question, Philippe. Ça dépend de la molécule, mais en général, par rapport à ce que je prescris, par exemple, c'est on commence 48 heures avant le départ, un comprimé par jour. Ensuite, sur toute la durée du séjour. Et ensuite, on continue une semaine après. Mais c'est pas vrai pour tous les médicaments antipaludéens, mais celui le plus connu, on va dire, c'est ce qu'on appelle la malarone, mais en fait, le nom de la molécule, c'est atovaconne proganil. Malarone, c'est le nom de la marque, je fais pas de pub, j'ai pas de lien avec les labos, etc. Mais voilà, si vous en avez entendu parler d'un, c'est sûrement celui-là. Bah voilà, c'est un petit peu le schéma. D'accord?
C'est un peu le qui tout double, hein, ce fameux traitement antipalu, il y en a qui le prennent pas, il y en a qui le prennent, il y en a qui disent ouais, je le prends pas parce que ça fatigue. Finalement, il y a une recrudescence du paludisme, il faut le dire, hein. Dans le monde.
Le paludisme, c'est une des maladies infectieuses qui fait le plus de morts dans le monde, hein. Ça fait plus de morts que le sida, hein. Donc voilà, c'est important de s'en prémunir, surtout quand vous allez par exemple avec vos enfants qui sont nés en France, qui ont jamais été justement au pays en Afrique. Bon, bah faut prendre ses précautions, quoi. D'accord, parce que se faire piquer par les moustiques, c'est sûr que ça va arriver. Donc maintenant, c'est bien d'avoir un petit traitement, on a la chance d'en avoir, pour se prémunir contre le paludisme, qui est une maladie très grave, et pouvoir passer de bonnes vacances.
Est-ce qu'on parle de votre casquette tout de suite ou on en parle après la pub?
À la casquette.
Après la pub. Parce que je crois qu'il y a deux, trois choses à dire pour ceux qui découvriront la vidéo, puisque l'émission est filmée. Avicenne est avec nous, Walid Mekedem est l'invité d'AVS jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
On va parler des bobos de l'été avec mon invité ce matin, c'est Avicenne, le docteur Walid Mekedem. Ça fait plaisir de vous revoir, doc, puisque vous avez été avec nous pendant tout le mois du Ramadan. Ah, c'était avant, dans une autre vie, quand vous preniez encore le RER pour rentrer chez vous, mais maintenant vous êtes installé à Paris, dans un immeuble luxueux. Du 19e arrondissement.
Voilà, on va pas donner non plus mon adresse, mais en tout cas pour ceux qui étaient présents, c'est vrai que je prenais le RER, et si on peut parler du RERE, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était une vraie galère.
On peut parler aussi du RER A si vous voulez, enfin je crois que tous les RER.
Je pense que le RER A c'est le moins pire si ça se dit. Non?
Ouais.
Ouais. La discussion.
On a du mal à imaginer que finalement que tout le monde s'imagine que les docteurs sont riches et que finalement ils habitent tous dans les beaux quartiers du centre-ville. Ils imaginent pas que le soir ils doivent rentrer chez eux dans l'appartement qu'ils partagent en RER.
Ouais, c'est vrai que je suis resté 7-8 mois en banlieue en arrivant sur Paris. Donc je prenais le RER E pour aller travailler. Et puis récemment j'ai pu avoir un appartement dans Paris. Et là je prends le bus, ça me change. Ou le vélo, c'est bien le vélo.
Vous avez annoncé que vous quittiez les réseaux sociaux. Alors pour plusieurs raisons.
Exactement.
On a du mal à imaginer aussi qu'en 2022, un jeune docteur puisse être victime du racisme. Les gens se lâchent, il n'y a vraiment aucune retenue en fait, hein.
Bah, surtout qu'il y a des événements qui ont catalysé le phénomène, et c'est ce qui m'a un petit peu saoulé, c'est les élections présidentielles. Franchement, sur la période des élections, ça a été compliqué. On a lâché l'expression, je pense, c'est lâcher les chiens, lâcher les chevaux. Aucune idée.
On a commencé par lâcher Zemmour.
Et du coup, en fait, à chaque prise de position sur un fait de société ou autre, sur les réseaux, ça va très vite. Vous prenez des remarques, etc. Parfois, qui font référence, justement, qui sont très discriminantes. Et bon, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à cette question, parce que j'ai pas quitté les réseaux uniquement pour ça. Ça fait longtemps que j'y suis. Ça, c'était pas nouveau. Cette année, ça a été un peu, je pense, catalysé, augmenté avec la période électorale. Et là, bon, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, les réseaux m'apportent plus de négatifs que de positifs. Il est temps pour moi de
Mais négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire des commentaires, des...
Ouais, finalement, les réseaux, et de toute façon, on va parler de manière plus générale, pas que pour moi. On est trop connectés. On est hyper connecté. Maintenant que j'y suis beaucoup moins, moi quand je suis dans le bus, je suis là regardé par la fenêtre, je regarde les gens autour de moi, tout le monde a la tête baissée sur son portable. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je prendrai pas de position, hein, c'est du jugement de valeur plutôt, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un constat en fait, tout le monde peut le faire. on est trop sur notre portable. Et si vous avez, par exemple, vos téléphones, iPhone, etc., vous regardez sur le nombre d'heures passées sur le portable, vous regardez le détail, le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux, et vous dites, mais c'est incroyable! Qu'est-ce que j'aurais pu faire de tout ce temps?
Mais sans les réseaux sociaux, vous seriez-vous où, Avicenne? C'est-à-dire que personne ne vous aura marqué. Vous avez fait vos études dans le Nord. Personne ne saurait qui vous êtes. Vous seriez pas avec nous et personne ne s'intéresserait à vous. Enfin, c'est... quand je dis personne, c'est à part les vrais gens autour de votre entourage.
Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, dans la vidéo que je fais où je dis que je quitte les réseaux, je dis que pendant très longtemps, moi, ça m'a été utile et ça m'a servi. Ça m'a donné aussi une forme d'accompagnement, parce que durant ces études qui étaient difficiles, où il y a eu une forme d'isolement, parce que les études de médecine, c'est quand même quelque chose à part. Moi, ça a été bien de pouvoir échanger, communiquer avec du monde. Mais non, la question, c'est est-ce que aujourd'hui, j'en ai besoin d'être tout le temps connecté? Franchement, non. Moi, je vais me concentrer sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. mais du coup, sinon, les réseaux sociaux type Instagram, Twitter, Facebook, Snap, etc. Franchement, on passe trop de temps dessus. Pour moi, c'est une perte de temps. On peut regarder un petit peu les heures que vous y passez. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Ou alors, du moins, modérer. Mais quand on les a, c'est très difficile de modérer. Après, ça devient réflexe. Vous êtes là, vous savez pas quoi faire, vous êtes assis sur le fauteuil, vous sortez le portable, vous regardez, alors que vous en avez même pas forcément envie, mais c'est un réflexe. Ça devient reptilien. Un réflexe reptilien. Donc, et je me suis dit, quand on prend conscience de tout ça, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. De mon côté, c'était difficile de me dire, OK, pas de problème, je continue. J'ai dit non, bah, je préfère franchement prendre du recul, me recentrer sur moi, sur ce qui est important. Et puis voilà, c'est vrai que sur l'attention, ça joue. Vous êtes là, vous regardez un film. Elle est où l'époque où vous étiez devant un film et vous touchiez pas le portable pendant 1h30, 2h? C'est impossible. Moi, je parle avec mes potes, tout le monde est là devant son film Netflix, etc., portable à la main. Et toutes les 10-15 minutes, ça va regarder un petit peu s'il y a des notifications, ce qui se fait. Attention, vous lisez un livre. Lire un livre pendant une heure d'affilée. Qui le fait aujourd'hui comme ça? Ah, vous, Philippe, là, hochez la tête.
Bah, moi, ouais.
Parce que vous n'êtes pas sur les réseaux.
Non, c'est pas ça. C'est que je sais faire la part des choses.
Exactement. Non, mais du coup, c'est pour ça, c'est difficile. En tout cas, voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier. Chacun fait à sa sauce. Ouais. Moi, pour moi, c'est vrai qu'en étant un peu trop connecté, bah, ça, voilà, j'avais de mauvaises habitudes. Et j'ai préféré prendre du recul de manière un petit peu radicale. C'est vrai. Mais je me sens mieux.
On va parler des infections de l'été, donc on va commencer par l'herpès labial. Quel est le lien entre l'herpès labial et finalement la période de l'été? Il y a plus d'herpès l'été?
Alors le soleil joue sur les recrudescences herpétiques, donc exactement.
Ça les soigne pas?
Non, ça les soigne pas. Je sais pas d'où sort cette...
Et cette idée justement qu'on a moins de boutons l'été avec le soleil que...
Ah non, du tout. Bah l'herpès labial, donc le bouton de fièvre, hein, qu'est-ce que c'est? C'est de l'herpès au niveau de la bouche. En fait, il suffit d'être infecté une fois dans votre vie, en général durant l'enfance, pour que le virus sommeille un petit peu en vous, dans la région. Et parfois, suite à voilà, fatigue, stress ou exposition au soleil, pouf, le virus se réveille, il suit le trajet des nerfs, etc. Et il sort à la sortie de la bouche. Et là, ça vous donne un bouquet pas très joli, avec plein de vésicules qui claquent facilement. Après, ça fait des grosses croûtes. Et bon, l'exposition solaire joue sur les recrudescences d'herpès. Maintenant, le mécanisme physique, chimique qui se passe au sein du corps, je saurais pas vous l'expliquer, mais voilà, c'est connu que soleil, herpès, ça fait pas bon ménage.
C'est pas le bon combo. Alors, dans ces cas-là, comment on s'en préserve?
Alors, bah, ça dépend un petit peu de la fréquence à laquelle vous faites de l'herpès. Soit ça vous arrive une fois tous les 36 du mois, bon, c'est tout, vous pouvez pas vraiment prévenir le chose, mis à part faire attention au soleil. Et quand ça sort, bon, soit vous consultez, soit vous laissez passer, parce que dans tous les cas, un bouton de fièvre, c'est pas non plus la fin du monde, même si c'est pas très beau. Soit il y a des personnes qui font très souvent de l'herpès, et j'ai des patients comme ça, du coup, auxquels on peut déjà anticiper avec un traitement en pommade antivirale qu'on peut appliquer dès les premiers signes. Il faut savoir que c'est efficace vraiment si vous mettez très tôt. Si le bouquet est sorti, que vous mettez de la crème, ça va rien changer. D'accord? Mais si vous sentez ça pique, ça brûle, vous savez bien reconnaître le phénomène, vous mettez, ça peut limiter la casse. Et après, il y a des personnes qui en font vraiment trop souvent et chez lesquelles on peut donner un traitement qu'on dit prophylactique, c'est-à-dire pour prévenir, du coup, en comprimé, mais vraiment, c'est rare ce type de personne, parce que voilà, prendre des comprimés tous les jours pour éviter d'avoir des boutons de fièvre, vous imaginez bien que c'est sur certains cas un peu particulier.
Contagieux ou pas?
Ah oui, contagieux, bien sûr. Donc l'herpès au niveau de la bouche, c'est contagieux. Donc on fait pas de bisous quand on a un gros bouton de fièvre, surtout aux enfants, parce que finalement, comme je disais, une fois que vous l'attrapez, l'herpès, il reste en vous un peu toute votre vie. Donc c'est un petit peu ballot d'aller contaminer un pauvre enfant qui l'a pas encore eu, même si bon, c'est pas non plus la fin du monde comme je disais, mais si on peut éviter, c'est mieux.
Alors, contagieux également, les mycoses plantaires, il y en a plus l'été?
Les mycoses, oui, l'été, il y en a beaucoup, mais c'est surtout à cause de la chaleur et de l'humidité. D'accord. Donc, on appelle aussi souvent la mycose. Là, vous voyez qu'on a entre les orteils, qui donne une genre de fissure. D'ailleurs, les gens savent pas forcément que c'est des mycoses. Ils ont une genre de fissure entre les orteils. Ils disent là, je me suis blessé. Non, en fait, c'est une mycose. On appelle ça aussi pied d'athlète, parfois avec un petit enduit blanchâtre autour.
C'est un champignon. Ça peut atteindre tous les doigts de pied de façon complètement indifférente.
Oui, en fait, une fois qu'on en a, ça peut même se propager, mais en général, ça reste localisé à un espace inter-orteil, on va dire, et ça démange. Et bon, le traitement est assez simple, d'accord? Une crème antifongique, on dit, antimycose, ça s'applique au bout d'une, deux semaines, voire trois, les max, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que quand c'est là, c'est pas top. Mais du coup, comment s'en prémunir? Faire attention à l'humidité, la chaleur, les baskets dans lesquelles on reste, on transpire, comment on appelle ça, là? Je sais pas les sandales, mais pas les pantoufles. Trouvez-moi le synonyme.
Les claquettes.
Claquettes, voilà, tout le temps.
Ah, humide. Faut me demander, moi, au niveau des claquettes. Maître Boily m'a offert une très jolie paire de claquettes fourrées récemment. C'est parfait.
Séchez bien vos pieds. Lavez bien vos pieds et séchez-les bien.
Ouais. Parce que claquettes et mycoses, pas bonne idée. Parce qu'on met les claquettes pour aller à la piscine, souvent. Et c'est vrai que les piscines sont des nids à mycoses.
Franchement, humidité, chaleur, humidité, il n'en faut pas plus. D'accord, c'est parfait, thermostat nickel. On est dans la cuisine parfaite pour faire de la bonne mycose. Bon champignon.
Et sur les plages ou...
Sur les plages, il y a un type de champignon. Oh, c'est intéressant, j'y aurais pas pensé si vous n'avez pas posé la question. Ça s'appelle le Pityriasis versicolor. Ça vous parle? Pityriasis, je pense que si vous en avez déjà vu. C'est des gens qui ont des genres de taches marron dans le dos. Parfois pas marron, mais un peu, ça donne une décoloration sur la peau, surtout plus foncée, ça donne un genre de décoloration. On se dit, c'est quoi ces taches sur ma peau? En fait, c'est un type de champignon. Et souvent, ça s'attrape aussi au contact de la plage, etc. Dans tous les cas, pas méchant, c'est esthétiquement pas forcément beau. La mycose au niveau des pieds, ça gratte, ça se soigne bien. Maintenant, il y a des moyens de faire attention. Dans tous les cas, une fois que c'est là, allez consulter.
D'accord. Quand on dit que c'est contagieux, donc ça veut dire qu'on peut la transmettre à quelqu'un d'autre, c'est ça?
Alors, par contact. Alors là, je vais pas dire de bêtises. Je saurais pas vous dire comme ça si par contact direct, ça se transmet. Après, il y a des environnements propices. Vous avez parlé de piscine, oui. D'accord. Maintenant, vous touchez une mycose avec votre doigt. Est-ce que vous en avez une au bout du doigt le lendemain? Mais voilà. Donc, c'est surtout l'environnement sur lequel il faut faire attention.
Donc, attention et surtout séchez vos pieds.
Séchez vos pieds, c'est important. C'est important.
On parle des pathologies de l'été avec mon invité aujourd'hui, Avicenne, le docteur Walid Mekedem. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube sur laquelle vous donnez des conseils santé doc. On rappelle l'adresse.
Avicenne, A-V-I-S-C-E-N-E. De toute façon, j'espère qu'on mettra le tag dans le titre. Je compte sur vous, Beurre FM. Et puis, j'invite les auditeurs à s'abonner.
Voilà. Donc, ça, c'est pour la personne qui s'occupe de nos réseaux sociaux. On voulait parler de votre casquette, à l'heure. Est-ce que quand vous allez au cabinet, vous avez une casquette ou pas?
Alors, sur le trajet, j'en ai une. Après, forcément, quand j'arrive, je l'enlève. Par contre, je vous avoue, par ces temps de canicule, je reste en short. Après, mon short, il est plutôt cool. Est-ce qu'on va le voir en vidéo si je le montre?
Écoutez, si ça fait des vues, je sais pas si ça fera des likes.
C'est un short en jean, ça va, ouais. ça passe.
Et alors, quelqu'un qui, justement, les gens qui viennent consulter, qui vous voient en short, qu'est-ce qu'ils disent? À part, vous avez des beaux mollets, doc.
Écoutez, les gens ont chaud, j'ai chaud, je pense qu'on se comprend. Quand il fait presque 40 degrés, donc, je pense qu'il y a rien de choquant à avoir les mollets à l'air.
Voilà, docteur nouvelle génération, et c'est Walid Mekedem qui est notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons des bobos de l'été avec Avicenne, Walid Mekedem qui est notre invité jusqu'à 10h. On parlait des maladies de l'été, et c'est vrai que l'été c'est l'époque de recrudescence de ce qu'on appelle les IST. On a fait une émission récemment avec Nadia Elbouga d'ailleurs sur ce sujet, les infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'en ce moment vous voyez beaucoup au cabinet, doc?
La chottis. Voilà, est-ce que ça vous parle?
Écoutez, dit comme ça me parle.
La chaude pisse, du coup, bah forcément, en général, la chose qu'on voit de manière plus fréquente, c'est des personnes qui consultent pour voilà des brûlures, douleurs à la miction, avec parfois souvent des écoulements un peu purulents, du blanc qui sort comme ça. C'est ce qu'on appelle des urétrites. Mmh. Et en général, c'est des infections à ce qu'on appelle chlamydia ou gonocoque, donc des bactéries qui sont des germes qui se transmettent de manière sexuelle et qui donnent des symptômes franchement pas agréables. Mmh. Bon, après, le traitement, heureusement, est accessible en France, d'accord, et plutôt efficace, mais...
C'est des antibiotiques.
Antibiotiques. Ouais. Différent, d'ailleurs, entre chlamydia et gonocoque. Faut savoir que, pour gonocoque, le traitement, c'est une injection intramusculaire. Donc, franchement, voilà, c'est qu'une fois, mais c'est pas très agréable, quoi, si vous aimez pas les piqûres. C'est pas la taille d'un vaccin, une intramusculaire, hein. C'est comme ça, hein, mmh. dans la fesse. Mmh.
D'accord. Vous en voyez beaucoup, là, en ce moment, ou...
Ouais, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde, mais j'en vois, oui. Ouais. J'en vois.
Mais c'est vraiment saisonnier, enfin, c'est...
Bah, après, à vrai dire, sur Paris, on va pas se mentir, il y en a toute l'année, mais peut-être que sur les bords de plage ou au Cap d'Agde, sur la période, il y en a peut-être un petit peu plus.
On va parler des... Il a fait très très chaud, là, ces derniers jours. On va parler des coups de chaud, et puis on va parler des coups de soleil. On a tendance à banaliser finalement le coup de soleil. Quels sont les vrais dangers, Walid Mekedem, du coup de soleil ?
Bah alors, il y a deux types de dangers. Il y a celui tout de suite et celui après. Bah tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est que le coup de soleil, c'est une brûlure. Donc brûlure premier degré, quand vous avez un peu de chance, c'est rouge, ça fait mal, c'est pas agréable. Mais après, on passe rapidement, et ça vous avez dû en voir, du deuxième degré, c'est-à-dire avec des flictènes, donc des bulles qui se forment à la surface de la peau. Vous avez déjà vu ça, des gens avec des coups de soleil avec des bulles? On en voit, hein, des fois, c'est pas très beau. Et après, des fois, c'est vraiment des degrés supérieurs. Et avec des gens qui sont brûlés, qui sont extrêmement douloureux, qui vont faire de la fièvre. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui finissent, du coup, même aux urgences. Et après, le danger, c'est surtout plus tard. Avoir des coups de soleil de manière répétitive. Bah, ça entraîne, voilà, des modifications au niveau, des gènes, voilà, des cellules de notre peau. Et voilà, des cellules qui subissent ce type de modification avec le temps peuvent dégénérer et entraîner des cancers de la peau. Donc il y a différents types de cancers de la peau, et un cancer de la peau, même si c'est la peau, ça reste un cancer, et un cancer, c'est une maladie grave de laquelle on peut mourir. Et il y en a un qui est terrible, c'est ce qu'on appelle le mélanome. Le mélanome, c'est quoi? C'est un type de grain de beauté qui peut passer inaperçu, mais si vous rapprochez bien, vous voyez qu'il est pas comme les autres. Donc quand on n'est pas médecin, peut-être qu'on peut passer à côté, mais nous on a certains critères pour le différencier. Alors on se dit ouh là là, c'est pas un grain de beauté comme les autres. Et le mélanome, c'est un cancer ultra violent, parce que du coup, il se propage aussi rapidement dans le sang, les cellules se propagent, et ça donne des métastases qui peuvent disséminer assez rapidement et entraîner par la suite, du coup, le décès. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il est vicieux, hein. Faut le voir, hein, qu'on a un grain de beauté pas comme les autres. Donc, voilà. Donc, le soleil, il faut s'en prémunir avec...
Alors, même quand on a un type de peau maghrébin, hein, d'origine.
Bien sûr. En plus, quand on est d'origine maghrébine, en maghrébin, on n'est pas non plus noir de peau, hein. On est mat, voilà. Après, même les personnes d'origine subsaharienne qui sont noires peuvent être atteintes de mélanome. D'accord. Donc le mélanome, ça.
Donc ça vous protège pas, c'est ça que ça veut dire.
Ça protège pas assez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus sensible et plus prédisposé à ça quand on est très blanc, quand on a ce qu'on appelle un phototype, soit un ou deux, c'est-à-dire soit quand on est roux, voilà, blanc, soit quand on est blond. Et quel est le pays, Philippe, où il y a le plus de mélanome par nombre d'habitants?
En Australie.
Très bonne réponse. Vous dites bien que l'Australie, qui est un pays qui a été colonisé par, je pense, les Britanniques, on se retrouve avec des gens descendants d'Anglais
qui vivent sur la plage toute l'année.
Voilà, là où ça brûle 40 degrés toute la plage, et où l'époque, enfin ouais, les gens d'origine, ce qu'on appelait les aborigènes, avaient pas du tout la même couleur de peau, on va dire.
Ils ont pris conscience, hein, aujourd'hui, des ravages que ça fait, hein, sur le cancer de la peau en Australie. Mais c'est vrai que longtemps ils étaient sur la plage, ils sont toujours sur la plage toute l'année, sauf que maintenant ils se protègent beaucoup,
voilà,
plus.
Exactement. Donc mettez, voilà, de la crème solaire. C'est un peu chiant de la badigeonner, surtout quand c'est dans le dos, c'est difficile. Et là, faut dire, est-ce que tu peux mettre de la crème dans le dos? Mais voilà, faisons-le pour se protéger. Je vous avoue, moi je mets de la crème solaire, hein, parce que, mais rien que être brûlé, quoi, avoir un coup de soleil, ça vous gâche les vacances.
Et pensez aux enfants aussi, quand même.
Les enfants, voilà.
Protéger les enfants.
Sur les enfants, la crème solaire, et même la crème solaire parfois sur les enfants, c'est parfois même pas suffisant. C'est bien d'avoir des vêtements qui couvrent un peu, hein, du coup, les zones qu'on dit photo exposées, aussi casquettes, lunettes. Bon, bah, c'est sûr que quand vous voyez des petits sur la plage qui sont tout petits, comme ça, tout blancs, avec une peau toute fragile, vous doutez bien que le cagnard sur la plage, ça les brûle comme un steak, hein.
Qu'est-ce qui marche, qui est efficace sur un coup de soleil? La biafine?
Ouais, bah, en fait, ça soulage. Ça soulage, c'est un côté apaisant. Voilà, mais ça va pas non plus guérir la peau qui a été brûlée. La peau qui a été brûlée, bah, vous en rendez vite compte. Ensuite, elle part. Quoi, vous pelez, plus. Mais en attendant que que le phénomène de cicatrisation se fait, que la nouvelle peau arrive, bah, vous douillez. Voilà. Et franchement, le temps que ça dure, si vos vacances durent une semaine, bah, je peux vous dire que, la semaine de vacances, vous dites, bah, mince, hein. J'aurais dû faire attention.
On va parler un petit peu de la chaleur. C'est vrai qu'il a fait très très chaud ces 10 derniers jours.
Il fait chaud à Paris, hein. Ouais. Et partout en France, hein.
Ouais. Et alors c'est vrai que l'été, on fait beaucoup plus de sport en extérieur. Est-ce qu'on peut mourir finalement de faire du sport et d'un coup de chaleur en faisant du sport?
Alors, on va pas passer par quatre chemins. La réponse est oui. Donc même si ça peut en étonner certains et si d'autres vont trouver ça logique, il existe ce qu'on appelle les coups de chaleur d'exercice. Donc et d'ailleurs je me souviens, je discutais avec un ami qui est réanimateur du côté de Marseille et qui me disait que chaque été dans leur salle de réanimation, ils ont des gens qui viennent pour des coups de chaleur comme ça d'exercice. Typiquement la personne que vous voyez sur les bords des grandes routes du sud en train de courir torse nu à midi.
Ruisselant.
Ouais. Bon, c'est un petit style, on va pas se mentir, mais parfois ça finit très mal. Donc évidemment, on a un genre de thermostat interne qui permet de réguler notre température. Si vous la faites monter avec l'exercice et qu'en plus vous avez le soleil qui vous tape dessus à 30-35 degrés, voire parfois plus, parfois ça dérègle la machine. Et quand on a une surchauffe interne, on attrape ce qu'on appelle un coup de chaleur qui va...
C'est ça qu'on appelle le coup de chaleur en fait.
Voilà, le coup de chaleur, ça va être une augmentation de la température corporelle. Voilà. Mais en fait, le coup de chaleur d'exercice, ça va être une augmentation de cette température associée à des troubles neurologiques, type perte de connaissance, convulsion, coma ou lésions même cérébrales. Et en général, c'est associé aussi à d'autres lésions internes du corps qui entraînent ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale. Et c'est pour ça que vous finissez en réanimation. Et là, bon, je suis pas réanimateur, mais il y a des méthodes qui permettent de refroidir les corps et essayer de limiter les dégâts. Mais la surchauffe, c'est pas bon du tout pour votre corps. Après, ce qu'on peut dire, c'est que bon, ça arrive pour les sportifs, la surchauffe, coup de chaleur d'exercice. Mais après, il y a aussi, par exemple, la personne âgée. Vous vous souvenez de la canicule de 2004? Combien de personnes sont décédées? Bah forcément, quand on vieillit, thermostat interne, voilà, il est pas aussi neuf qu'à l'adolescence ou que l'âge des jeunes adultes, et que quand il fait 35 degrés dans la maison, pour peu que vous mettez pas assez à l'air frais, que vous buvez pas assez et que vous avez, comme je disais, un thermostat un petit peu vieilli, la chaleur peut augmenter et entraîner aussi...
Et vous le sentez pas, en fait, hein.
Pas forcément.
Enfin, on a quand même les coureurs du Tour de France qui sont une illustration et qui tiennent la chaleur.
Alors, je suis pas un spécialiste du Tour de France. Je sais pas à quelle heure ils font leur course. Mais
Les cyclistes, ils sont sous le cagnard, hein, moi, je peux vous le dire.
Bah, j'espère qu'ils boivent bien. Mais en tout cas... Les coups de chaleur chez le sportif, pas forcément professionnel, bah c'est connu, c'est une entité qui existe, et il y a des gens qui finissent à l'hôpital à cause de ça. Donc franchement, moi j'aime bien courir, faire du sport. En ce moment il fait chaud, bon bah soit je le fais le matin, soit je le fais en fin de journée. Mais franchement, je me vois pas courir à midi, 13h, 14h en plein cagnard.
Et le petit gars du Nord, il aime pas le vélo?
Si, j'aime bien le vélo. D'ailleurs, je vais... Je reviens du travail en vélo. Matin, j'ai la flemme, je prends le bus.
Et il faut dire qu'au retour, ça descend. Donc, il faut expliquer aux gens qu'à l'aller, ça monte. Donc, vous prenez le bus. Mais ça compte pas si vous faites que descendre.
Non, mais franchement, c'est plutôt au retour que ça monte. Je vais pas dire où j'habite, mais en général, ce que je fais, quand ça commence à vraiment monter, je garde le Vélib. Voilà, et je finis à pied.
Vers Télégraphe, c'est le point le plus culminant de le plus haut de Paris.
Non, mais ça monte vachement Paris, hein, selon les endroits. Donc il y a des endroits, faut poser le vélo, hein, parce que un Vélib avec trois vitesses, si j'avais un vélo de course, ok, mais Vélib,
c'est pas que du plat. On va terminer avec les jambes lourdes. Certaines personnes se plaignent d'avoir les jambes plus lourdes l'été.
Et c'est exactement ça. En fait, c'est souvent les personnes qui ont déjà de base une mauvaise circulation sanguine, un mauvais retour veineux. Comment ça se reconnaît, quelqu'un qui a un mauvais retour veineux? Vous allez regarder de près. Parfois, vous allez voir des petites varices, hein, d'accord? Donc, les varices, c'est un signe d'insuffisance veineuse. Et quand il fait chaud, ça majore le phénomène. Et là, on commence à avoir les jambes qui gonflent, les jambes lourdes. Et c'est franchement pas agréable. En plus, parfois, les jambes, il y a de l'œdème, hein, pas forcément énorme comme si vous faisiez une poussée d'insuffisance cardiaque. Mais parfois, il y a de l'œdème. Vous mettez le pouce et pouf, ça s'enfonce comme dans du beurre. On dit ça prend le godet. D'accord? Les gens viennent me voir, qu'est-ce que je peux faire contre les jambes lourdes? Qu'est-ce qu'on fait, Philippe?
On prend de la vigne rouge.
Non. Je sais pas.
Non, je sais pas. Il y a pas un extrait à base de vigne rouge ou.
Bah, ça me parle pas. Franchement,
ça me parle
pas.
Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je ferais.
Qu'est-ce que vous ferez?
Je prendrai une douche froide parce que je sais que ça active la circulation du sang et ça fait remonter le sang surtout.
Bah, ça a un effet vasoconstricteur.
Bon. Donc
ça resserre. Oui, non, ça fait du bien et ça a un effet vasoconstricteur effectivement. Après, en fait, il y a un truc. Je sais que c'est chiant, mais c'est efficace contre les jambes lourdes, les jambes qui gonflent.
Ouais.
C'est les bas de contention. Ah ouais, et les bas de contention en été, je sais, les gens disent « Ah non, il fait trop chaud », mais et ça serre, c'est pas agréable. Mais s'il y a un truc vraiment efficace qui sur les jambes lourdes, ouais, les jambes qui gonflent, c'est avoir des bas de contention.
On va terminer avec ça d'ailleurs, pour tous ceux qui ont des voyages en avion et de longue durée d'ailleurs.
Ah bien sûr, vous y connaissez bien, hein, Philippe, je suis étonné.
Bas de contention.
Bas de contention, c'est...
Ah ouais, non, mais faut pas rigoler avec ça.
C'est
si
bien
vous devez faire 24 heures d'avion...
Bien sûr. C'est vrai qu'il y a toujours un risque de faire ce qu'on appelle, enfin un risque surtout sur les voyages longs, prolongés, et parfois chez certaines personnes un petit peu plus à risque, de faire ce qu'on appelle une phlébite, donc un caillot de sang dans les veines de la jambe. Et le risque d'une phlébite, c'est que le caillot monte, ça va dans la circulation pulmonaire, ça fait ce qu'on appelle une embolie, pulmonaire, ça peut être grave. Un moyen de prévenir, voilà, c'est pas non plus la solution miracle, mais c'est bien de mettre des bas de contention, ça favorise le retour veineux. Ça évite aussi d'avoir la sensation des jambes lourdes, des jambes qui gonflent. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais fait de très très longs voyages en avion. Il y a des gens qui me racontent, après avoir fait 10 heures d'avion, quand ils descendent de l'avion, ils ont des jambes comme des poteaux. Voilà, donc un moyen efficace, comme en été.
Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas remettre leurs chaussures. Ça, c'est un signe. C'est-à-dire que vous n'enlevez pas vos chaussures dans l'avion, vous risquez de ne pas pouvoir les remettre.
Voilà, non mais voilà, bas de contention. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, c'est important de bouger régulièrement les jambes, faire un petit tour aux toilettes, marcher. Et puis voilà quoi, mais après des fois il arrive des choses, on essaie de prévenir, c'est pas efficace à 100%, mais si on peut faire des petits trucs, bah voilà, bas de contention, c'est pas une mauvaise idée.
Walid Mekedem avec nous. Alors vous pouvez le rejoindre sur sa chaîne perso, donc Avicenne.
Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, et ça me fait plaisir.
Voilà, vous pourrez commenter également la vidéo qui a été tournée de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM si vous aussi vous êtes choqué par les gens qui annulent, enfin qui n'annulent pas justement les rendez-vous chez le médecin. Vous pourrez le dire et vous direz ce que ça vous pensez d'un jeune docteur avec sa casquette à l'envers. Est-ce que vous iriez le consulter?
Ouais, c'est un petit style. Et puis je l'enlève au cabinet, je l'enlève. Mais là, on est tranquille, on est entre nous.
Ou pas. Vous réécouterez également l'émission en podcast. Merci, Doc.
Merci à vous, Philippe.
C'est un plaisir de vous revoir et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.